Avant de retrouver l'interview de Matin Première, Bertrand, vous recevez ce matin Olivier Corten, professeur en droit international à l'ULB. Messieurs, c'est à vous.
Bonjour Olivier Corten.
Bonjour.
Il y a 70 ans demain, le 24 octobre 1945, la Charte des Nations Unies entrait en vigueur et donc lançait pour de bon l'ONU. On croyait sans doute dur comme fer à l'époque que les conflits pourraient se régler mieux ensemble au sein de la communauté internationale. 70 ans après, est-ce que cette idée a vraiment changé le monde? Allez, je pose la question autrement. À quoi ressemblerait un monde sans l'ONU, Olivier Corten?
Ben, on le saura évidemment jamais, c'est difficile de le dire. Ouais. Néanmoins, si on compare la période qui correspond à l'activité de l'ONU avec les périodes antérieures, on voit quand même des différences. Si on prend le cas du 19e siècle, par exemple, il n'y avait pas d'organisation universelle. Donc ça veut dire que chaque grande puissance agissait sans limite, sans véritablement coopération, sans frein, avec des petits arrangements entre amis, je dirais, entre puissances alliées.
Il y a eu l'expérience de la Société des Nations.
Alors après, il y a eu l'expérience de la Société des Nations, mais sans les États-Unis, et qui avait un mode de fonctionnement très, 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 très lourd, je dirais, et qui faisait que la Société des Nations, finalement, a été absente et n'a pas pu régler tous les conflits, en particulier tous les prémices de la Deuxième Guerre mondiale, avec un certain nombre d'agressions, que ce soit de l'Italie, de l'Allemagne en Espagne, par exemple, pendant la guerre d'Espagne, ou encore de l'Union soviétique. Et donc, la Société des Nations, c'était une première ébauche, si on peut dire, d'organisation de sécurité collective. L'ONU, quand même, a été beaucoup plus loin de ce point de vue-là.
Est-ce qu'on peut dire que l'essentiel de l'apport de l'ONU au maintien de la paix ou aux tentatives de maintien d'une paix mondiale internationale sont invisibles ou sont pas spectaculaires ?
Alors, ce qui est vrai, c'est que l'ONU, c'est pas seulement le maintien de la paix au sens strict du terme. C'est pas seulement des casques bleus, c'est pas seulement le volet militaire. Donc, il y a cette idée que pour arriver à la paix, il faut aussi, de manière plus, effectuer un travail de fond, de coopération, que ce soit dans matière de santé, d'éducation, en matière de télécommunication, en matière postale, enfin, tous des domaines très, très techniques.
Et dont on parle pas nécessairement souvent quand on parle de l'ONU.
Et où il y a toute une activité dont on a d'ailleurs les effets tous les jours, que ce soit nos téléphones portables ou d'autres choses, et qui fait que l'ONU, c'est tout un réseau d'organisations intergouvernementales qui coopèrent dans toute une série de domaines, l'idée étant que la coopération va éviter les conflits. En fait.
Est-ce que si on fait le bilan, c'est évidemment difficile, hein, 70 ans, en quelques minutes, c'est un travail énorme. Les grandes réussites et les grands échecs, on va peut-être commencer par là. Les grands échecs pour vous de l'ONU au cours de ces 70 années, s'il faut en citer un ou l'autre.
Ben, le grand échec, à mon avis, c'est les situations d'occupation. L'ONU, en 1945, comme vous l'avez dit, c'était un contexte bien particulier dans lequel les guerres, c'était surtout des guerres de conquête territoriale. Aujourd'hui, c'est plus le cas, ou c'est encore très très rarement le cas. Et donc, si on se place 70 ans après, constater spécialement, tout d'abord, évidemment, que la Palestine est toujours occupée, ça c'est peut-être le plus grand échec des Nations Unies, un conflit qui n'en finit pas avec une puissance occupante qui refuse de respecter le droit international, même quand la Cour de l'ONU, la Cour internationale de justice, a affirmé le droit des Palestiniens à l'autodétermination. C'est peut-être le plus grand échec. Il y a d'autres cas d'occupation dont on parle peut-être moins. Chypre Nord, occupé par la Turquie depuis une quarantaine d'années. On en parle très peu, même quand on parle de l'accession de la Turquie dans l'Union européenne, on n'en parle pas, ou très très peu en tout cas. Ou alors le Sahara occidental, cette ancienne colonie espagnole qui est occupée par le Maroc également depuis des
décennies.
On en parle encore moins. Ouais. Mais ça, ce sont quand même des situations très très rares d'occupation. On peut encore ajouter le cas récent de la Crimée occupée par la Russie. Et voilà, ce sont des cas un peu d'un autre âge où des États occupent des territoires qui ne leur appartiennent pas. Et ça, c'est évidemment peut-être l'échec le plus considérable de la part des Nations Unies.
Est-ce que ça, c'est lié à un défaut structurel de l'ONU et là, singulièrement du Conseil de sécurité qui est vraiment l'organe fêtier en matière de maintien de la paix et de sécurité, qu'il n'y a pas de force suffisamment contraignante de l'ONU en termes d'organe de droit international?
Oui, alors en partie, il faut faire peut-être une distinction entre un cas comme celui de la Crimée qui est occupé par la Russie. Alors là, effectivement,
illégalement.
illégalement, de manière totalement contraire au droit international, sans aucun titre pour comme ça avoir détaché une partie d'un État, l'Ukraine, au nom de considérations historiques, parce qu'à ce compte-là, je sais pas moi, l'Italie pourrait revendiquer l'Empire romain et pourrait alors à ce moment-là revendiquer Nice et même la France et
la Savoie,
pas la Belgique. Donc là, évidemment, les arguments historiques ne sont pas des arguments valables. On peut pas refaire l'histoire constamment. Donc c'est tout à fait illégal. Là, évidemment, le système de l'ONU, c'est un système de coopération basé sur un certain rapport de force avec un rôle accru aux grandes puissances alliées qui ont gagné la guerre. Là, évidemment, dont la Russie, l'Union soviétique à l'époque. Donc là, on voit mal comment l'ONU peut agir de manière contraignante contre la Russie. Par contre, les trois autres cas que j'ai cités, le cas de la Palestine, le cas du Sahara occidental ou le cas de Chypre Nord, mais là, ce ne sont pas des membres permanents. Donc là, je ne crois pas que ce soit dû à un défaut structurel de l'ONU, mais plutôt à un manque de volonté politique de la part des États au sein de l'ONU, ce qui est autre chose.
Est-ce qu'on peut dire que depuis 1989, une bonne trentaine d'années, depuis que le monde bipolaire a vraiment complètement disparu et changé en monde multipolaire, il y a un recul quelque part de l'ONU et du multilatéralisme. Si on regarde ce qui se passe maintenant en Syrie, où les Russes frappent et aident leur allié syrien, les Américains frappent, les Français frappent de manière préventive, les Anglais aussi, et chacun de leur côté.
Oui, alors il faut peut-être avoir une vision à plus long terme, à mon avis. Si on se place avant le nouvel ordre mondial, donc pendant la guerre froide, là, en tout cas, le Conseil de sécurité était complètement marginalisé.
Oui, toujours divisé.
Toujours divisé, parce que soit c'était l'Union soviétique qui envahissait l'Afghanistan, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, et l'ONU ne faisait rien, soit c'était les États-Unis qui attaquaient le Nicaragua, qui attaquaient Cuba, etc., la Grenade ou d'autres cas dans leur arrière-cour, entre guillemets, là l'ONU ne faisait rien, et donc l'ONU était peut-être beaucoup plus paralysée qu'aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est que dans les années 90, avec la proclamation d'un nouvel ordre mondial, avec cette espèce d'acte de naissance de la guerre du Golfe pour mettre fin à l'agression du Koweït par l'Irak, on a proclamé un nouvel ordre mondial basé sur le droit international et le multilatéralisme. Ça a en partie fonctionné, je veux dire, il y a des précédents où l'ONU était là, était sur place, comme donc le cas, par exemple, de la Bosnie, comme le cas du Rwanda, comme le cas de la Somalie, comme d'autres cas encore. Et puis à partir, je dirais, de la fin des années 90, la guerre contre la Yougoslavie en 99, il y a eu un premier coup de canif dans le contrat, parce que là, on est intervenu en dehors du système et en contournant le Conseil
de sécurité. En l'occurrence, les Occidentaux. Avec
en l'occurrence, les Occidentaux. Et puis ensuite, ça a continué avec la guerre contre l'Irak. Et puis aujourd'hui, effectivement, on a eu un cas comme celui de l'Ukraine et un cas comme celui de la Syrie qui, là, en effet, ressemble plus peut-être à une situation guerre froide, je dirais. C'est-à-dire un conflit où vous avez les grandes puissances qui, par troupes interposées, vont indirectement s'affronter. Mais c'est quand même un petit peu différent que le cas, à mon avis, de l'Ukraine, qui est là plus clairement une violation, une agression d'un État contre un autre État.
Il nous reste une grosse minute. Ça fait aussi 30 ans qu'on parle de réforme de ce fameux Conseil de sécurité. Olivier Corten, est-ce que c'est en train de se faire? Est-ce que c'est en train d'avancer? Ou est-ce que finalement les discussions restent bloquées et on va rester avec ces 5 pays, 5 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale et leur droit de veto?
Alors le droit de veto, donc d'abord il faut peut-être rappeler juste en quelques secondes qu'il est basé non pas sur un critère démocratique ou de justice au sens moral du terme, mais plutôt sur le réalisme, la réelle politique. C'est de dire, on va pas prendre des décisions si ça va à l'encontre de la volonté d'une grande puissance, sinon on va prendre des décisions, mais elles seront pas appliquées, voire elles seront combattues, donc c'est un risque de conflit, c'est la réelle politique. Donc on peut comprendre cette institution. Ce qu'on peut difficilement comprendre aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est que ce soit encore les 5 grands d'il y a 70 ans. Alors est-ce que ça va changer? Je crois pas dans un avenir proche, parce que ça fait quand même des décennies qu'on en parle.
Il y a des propositions qui sont mises souvent sur la table, notamment par la France.
Simplement, ce qu'il faut juste savoir, c'est que pour que ça change, il faut l'accord des 5 qui ont le droit de veto. Donc ils ont en quelque sorte un veto sur leur veto. On peut pas d'autorité leur supprimer leur droit de veto, ni même d'ailleurs ajouter un droit de veto pour d'autres grandes puissances. Et donc de ce point de vue-là, c'est ce qui explique que ça prend énormément de temps et que c'est peut-être pas pour demain qu'il va y avoir un changement.
Au fond, l'ONU est-elle une institution démocratique quand on voit ça et quand on vient de vous entendre.
Démocratique, certainement pas. Oui, il y a, tous les États sont représentés à l'ONU, ils ont chacun une voix. Il y a donc un côté démocratique par rapport à des périodes antérieures. Mmh. Vous aviez, si vous voulez, les États civilisés, puis les États semi-civilisés, et puis les barbares. Mmh. Ici, c'est l'égalité souveraine et c'est la décolonisation est peut-être d'ailleurs la plus grande réussite de l'ONU, parce que là, on a aujourd'hui un monde universel qui n'est plus hiérarchisé entre puissances. Donc, il y a un côté démocratique. D'un autre côté, en effet, spécialement au sein du Conseil de sécurité, ça reste une organisation dominée par les grandes puissances.
Ouais, c'est plus l'Assemblée générale qui est l'instance démocratique que le Conseil de sécurité, en l'occurrence, évidemment.
C'est ça. Alors, le tout est de savoir aussi, pour chaque État, c'est démocratique entre les États. Au sein de chaque État, il y a des États démocratiques et puis il y a des États qui ne le sont pas, qui sont soit des États alliés des Occidentaux, comme l'Arabie Saoudite, ou soit des États qui ne le sont pas, comme la Corée du Nord, par exemple. Donc, c'est toujours un jeu de puissance. La démocratie, si elle existe, ne vaut qu'entre États et sans préjudice par ailleurs de savoir si ce sont des États qui sont eux-mêmes démocratiques.
Olivier Corten, professeur en droit international à l'ULB, à propos du machin que l'on appelle l'ONU, ce n'est pas de moi, hein, c'est une citation du général de Gaulle en 1960.